France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a 50 ans mourait J.R.R. Tolkien. Cette même année, en 1973, le lectorat français découvrait Le Seigneur des Anneaux dans une première traduction. Avec ses autres textes, il a révolutionné, avec le succès que l'on sait, la littérature de l'imaginaire. Ses livres se vendent à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et on profite de cet anniversaire et d'une publication tout à fait exceptionnelle aux éditions Bourgois pour vous proposer aujourd'hui un book club rempli d'êtres féeriques et de cartographies fascinantes en compagnie de Johan Sfar et Anne sont tous les deux savants passionnés de l'œuvre de Tolkien. Vers 15h50, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Le lundi, il relie pour nous un fait d'actualité à un ou plusieurs livres. Aujourd'hui, il réfléchit au motif de l'attente dans la guerre, en relisant notamment Julien Gracq, lequel avait salué en son temps l'œuvre de Tolkien, donc on bouclera la boucle. En fin d'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent notre grand jeu des pages musicales, de sorte que nous nous quitterons comme chaque jour en chanson. Ouvrons les livres, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Johan Sfar.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez des tonnes d'actualités autour de votre œuvre et vous avez la gentillesse de venir parler d'une autre œuvre, celle de Tolkien. Évidemment, on saluera tout à l'heure les parutions et les endroits où on peut voir vos œuvres en ce moment. Bonjour Anne Besson.
Bonjour.
Vous êtes, j'ai pas dit que vous êtes, oui, voilà, l'artiste que l'on connaît, l'auteur, illustrateur, dessinateur, réalisateur que l'on connaît. Vous êtes professeur de lettres et vous êtes une grande spécialiste de l'œuvre de Tolkien. On est ensemble pour évoquer cette parution du Seigneur des Anneaux aux éditions Bourgois, mais peut-être plus largement le texte, les illustrations de ce grand auteur. Je citais la date de 1973, c'est à la fois la mort de Tolkien et c'est aussi le moment où débarque en France une première traduction française. Et à la télé, on se demande si ça va marcher.
Mais est-ce que vous croyez, moi c'est la question que je me pose et que je voudrais vous poser, est-ce que vous croyez que cette œuvre extraordinaire va passer en français et en France, comme elle a passé dans les pays anglo-saxons, en France où je me demande si on est doué comme lecteur pour ce genre de merveille? Une question que je me pose.
C'est la question que se pose le grand monsieur de télévision en 1973. Est-ce que les lecteurs français sont doués pour le merveilleux avant qu'on dise quelques mots et plus encore de l'œuvre de Tolkien? Comme ça, vous diriez quoi, Johan Sfar? Est-ce que les lecteurs français sont suffisamment doués pour le merveilleux pour accueillir Tolkien en 73?
C'est le problème général de la fantaisie en France. Les lecteurs sont là, les auteurs sont là. On va dire qu'il y a eu pendant très longtemps un problème avec la prescription. Il fallait s'excuser de l'écrire, s'excuser de la lire, s'excuser de l'aimer. Aujourd'hui, ça change et un après-midi sur France Culture à parler de Tolkien, c'est une chose dont j'aurais pas rêvé en tant qu'auditeur enfant.
Et vous, Anne Besson, comment vous répondriez comme ça, de manière un petit peu anachronique, à cette question de 73?
Mais je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment amusant parce que c'est toujours une doxa qu'on retrouve encore très couramment et qui parcourt toute l'histoire de la réception du genre en France et qui contribue effectivement à handicaper sa réception correcte et notamment celle de la fantaisie produite en France par des Français qui est pourtant très riche.
Mais parce que quoi, on nous imagine comme un peuple sans imaginaire, sans appétit pour la fantaisie.
Le français serait terriblement rationnel, cartésien.
Descartes et le réel.
Exactement. Et voilà, il y a une résistance française à un esprit de l'imaginaire qui, lui, est anglo-saxon, où soufflent les vents au milieu des brumes et des bruyères. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est vraiment quasiment de la théorie des climats.
Alors évidemment, en 1973 et après, et tout le monde aura eu tort parce que la réception est incroyable. Et je l'ai dit en introduction, ce sont des millions de livres traduits dans plus de 60 langues à travers le monde qui font de Tolkien une œuvre évidemment extrêmement importante. D'habitude, l'émission commence par un questionnaire de lecture. On fait le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lecteurs. Libre à vous d'évoquer Tolkien en tant qu'il est un lecteur, mais peut-être on fait une petite notice biographique, Anne Besson.
Oui, bien sûr, il faut commencer par donc revenir sur sa vie, son œuvre. Donc Tolkien est né en 1892, alors dans une province qui sera plus tard l'Afrique du Sud, mais ses parents sont anglais, il revient très vite, et il est assez tôt orphelin de père puis de mère, donc c'est un premier choc
assez
pour
tôt,
lui.
C'est quel âge?
Il a une dizaine d'années. Il connaît quasiment pas son père parce qu'ils sont revenus plus tard avec sa mère. Et ça implique aussi pour lui un bouleversement dans sa géographie personnelle, hein, puisqu'il quitte la campagne pour la ville. Il restera toute sa vie très 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 sensible, hein, à la perte de la nature, ainsi qu'au souvenir de la religion que lui a transmis sa mère, religion catholique, qui est minoritaire en Angleterre, et à laquelle il va rester attaché. Je passe quelques années. L'étape suivante importante, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale, pour laquelle, comme tous ses amis de son âge, il est mobilisé. Il va en revenir relativement vite, hein, après la bataille de la Somme, parce qu'il a attrapé une maladie dans les tranchées. Mais c'est à ce moment-là qu'il commence à réfléchir et à écrire les premiers éléments de ce qui deviendra son légendaire. Légendaire, c'est tous les mythes des elfes les plus anciens. Ce travail, hein, commencé entre 1914 et 1918, va l'occuper littéralement jusqu'à la fin de sa vie.
Construire le propre imaginaire ou la propre mythologie des personnages qu'ensuite il fait vivre.
Ouais, tout à fait. Il devient, il a mené des études d'humanité classique et il s'est intéressé aux langues du nord-ouest de l'Europe. Il devient philologue à Oxford, spécialiste d'anglo-saxon et notamment du poème Beowulf, qui est c'est l'œuvre à laquelle sur laquelle il a le plus travaillé, l'œuvre médiévale. Et ça infuse bien entendu dans l'œuvre qu'il continue à écrire. Il va publier seulement deux romans de son vivant, hein, plus quelques nouvelles et quelques essais. Le Hobbit en 1937, hein, et ce qui est censé être sa suite, mais qui se fait très très longuement attendre, puisque ça ne paraît qu'en 1954-55, le long roman publié en trois volumes, qu'est Le Seigneur des Anneaux. Donc, à chaque fois, on a près de 20 ans qui séparent chacun des moments où le public a enfin accès à un petit bout de la Terre du Milieu. Et ce n'est qu'aujourd'hui, 50 ans après sa mort en 1973, qu'on commence à avoir une vision vraiment à peu près complète de l'ampleur de cette œuvre qui était restée largement enfouie à l'état de brouillon et à laquelle son fils, Christophe,
notamment grâce à son fils.
À son tour, ouais. Oui, consacrer sa propre vie. C'est-à-dire qu'il a lui aussi travaillé 40 ans à publier, à mettre en forme et à publier l'histoire de la Terre du Milieu, History of Middle-Earth. Il est quasiment co-auteur, hein, de cette œuvre qu'on connaît largement de manière posthume.
Je renvoie à un entretien fascinant de Christopher Tolkien avec le journal Le Monde, où il raconte les valises. Lui, il est installé dans le sud de la France, la manière dont il recompose, dont il date certains documents avec la couleur de l'encre, dont il est impossible parfois de savoir s'il est tout à fait fidèle ou pas. C'est un entretien où il est assez désolé de ce qu'on fait de l'œuvre Tolkien. Il regrette énormément tout l'aspect consumériste et vendeur de cette œuvre-là, mais on sent vraiment l'amour d'un fils pour son père et l'idée qu'une œuvre doit être ensuite publiée au plus près des volontés. Et c'est ce que racontent les éditions Bourgois, c'est qu'ils ont essayé de coller au plus près des volontés de J.R.R. Tolkien, notamment en insérant les dessins, un index, des cartes. Enfin, on y viendra, Anne Besson. Joanne Sfar, vous dites que vous avez été vous marquée par quelques anecdotes de la biographie de Tolkien. Ce serait quoi ?
Oui, il me semble qu'il y a un sous-texte qui est peut-être lié à des événements de sa vie. Alors, j'ignore si ça appartient à la légende ou c'est vrai. Je crois que Tolkien, enfant en Afrique du Sud, a été enlevé par un Zoulou fou qui a été deux ou trois jours avec lui dans la forêt jusqu'à ce qu'on retrouve le petit garçon. Je crois aussi que, comme James Whale, il a été marqué par les tranchées et que ça a créé son imaginaire. Et je crois qu'il y a la rencontre dans son travail de l'espèce de bonhomie campagnarde anglaise et de l'ombre des Nibelungen et de l'ombre de l'imaginaire allemand. Et Tolkien est passionnant parce que... Oui, il y a un sous-texte raciste dans son œuvre. Oui, c'est un écrivain de droite. Oui, c'est un écrivain qui redit les légendes médiévales européennes, mais il essaie de les sauver. Il y a une lettre assez célèbre sous le nazisme, quand les Allemands veulent absolument avoir le Hobbit dans leur bibliothèque, et ils demandent à Tolkien d'écrire un texte où il promet qu'il n'est pas juif. Et Tolkien répond, là non plus j'ai pas la lettre en tête, il répond qu'il n'est pas juif mais qu'il le regrette et qu'il trouve peu pardonnable ce que les Allemands sont en train de faire à l'imaginaire européen. Et on voit bien que derrière ça, comme dans la peinture pré-raphaélite à la fin du 19e siècle, il y a une tentative un peu désespérée de sauver l'imaginaire européen et d'en faire quelque chose. Tolkien disait que l'invention de la langue chez lui était plus importante que le détail du texte. Il a inventé une langue imaginaire, il a inventé une langue elfique, il a essayé de sauver l'Europe de quelque chose. Je ne sais pas exactement de quoi, mais et je crois que ce qui est très beau, c'est que chez lui, ce n'était pas résolu. Par exemple, son camarade Lewis, qui a écrit Narnia, fait une espèce de catéchisme insupportable avec un symbolisme assez ridicule. Il y a le lion, c'est le Christ, il y a le méchant enfant, c'est...
Et ce serait plus ouvert chez Tolkien.
Oui, parce qu'il ne résout pas. Parce que cet imbécile de Lewis, il fait du catéchisme. Tolkien, il ne sait pas ce qu'il manipule. Il refuse l'analyse de son œuvre, il refuse le travail symbolique.
On l'entendra dans une archive tout à l'heure où il refuse absolument la question de l'allégorie, d'une idée qu'il traiterait à travers son texte-là, les mouvements du monde et de la guerre et de la violence humaine. Il dit qu'il faut presque lire le texte pour lire le texte. Mais alors, ce qui est intéressant dans l'idée de ne pas savoir ce qu'il manipule, c'est que et Christopher Tolkien et Tolkien lui-même disent... C'est un work in progress. Jamais je n'aurais terminé. À quoi est-ce qu'on pourrait voir ça, Anne Besson, au-delà du simple fait temporel? Pourquoi est-ce que c'est une œuvre ouverte?
C'est parce que c'est une des tentatives les plus achevées de construire un monde alternatif complet. Ce qui en soi est une tâche infinie. Puisque on ne peut pas connaître le monde fictionnel au-delà de ce qui en a été écrit. On n'a pas, c'est les exemples les plus fameux, on ne connaît pas, je sais pas, la couleur des yeux de Lady Macbeth ou son le nombre de ses enfants, parce que voilà, Shakespeare
oui, on pourrait
a
toujours
ces
être
détails.
Plus détaillé, vous voulez dire.
Exactement, et il faut impérativement, il faut écrire tout ça. Si on veut avoir la réponse, ça ne peut être que par l'écrit ou l'image, différents médiums de la fiction. On n'y a pas accès comme on peut avoir accès au réel. Et donc ça crée une espèce d'appel d'air qui, à mon sens, est largement à l'origine de toute la culture médiatique populaire contemporaine, alors du côté de l'imaginaire, mais la volonté d'entrer davantage dans un monde de fiction, d'entrer davantage dans la terre du milieu, ce que ses premiers lecteurs ont voulu faire. C.S. Lewis, malgré tous ses défauts, est le premier à dire « j'ai marché en terre du milieu et je veux continuer à le faire ». Donc c'est un effet qui est produit sur tous les lecteurs et qui leur donne envie de poursuivre ce voyage. Et donc pour cela, ils ont inventé les jeux de rôle, ils ont inventé plus tard les jeux vidéo, ils inventent aujourd'hui
Oui, vous voyez presque l'ouverture de cette œuvre-là de Tolkien comme une invitation aux lecteurs et aux lectrices à poursuivre l'œuvre, quoi.
Alors, c'est pas ce que Tolkien voulait. Il la poursuit lui-même, puis Christopher, et cette question de ce divorce, le plus en plus grand, entre la fidélité à l'œuvre écrite et les dérives des adaptations médiatiques, dont vous avez dit un mot tout à l'heure à propos de l'article du
Aux
Monde.
Yeux de Christopher.
Oui, qui s'appelle L'anneau de la discorde, et où il dit, même, il parle, il utilise le verbe dépecer l'œuvre de
et
son...
Et il est désespéré.
Il l'a effectivement vécu très mal. Mais effectivement, il y a ce divorce, c'est-à-dire qu'il y a deux voies. Il y a la voie d'une préservation très scrupuleuse de l'œuvre écrite contre la voie d'une réappropriation qui, moi, ne me choque pas, dont je pense qu'elle a permis la survie de l'œuvre. Enfin, j'en suis sûre. C'est grâce à ces adaptations successives.
Puis on va peut-être lire les 1500 pages chez Bourgois aujourd'hui.
Exactement, tout à fait, qu'on continue à avoir envie d'avoir des éditions nouvelles de l'œuvre originale.
Alors nous, on est près du texte aujourd'hui et il ne sera question que de cela et des dessins, puisque c'est ce que permet l'édition de chez Bourgois. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement la réception 1973 et le doute que le peuple des lecteurs français puisse comme ça accueillir tant de merveilleux. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce qui se passe en 54-55 pour le public anglo-saxon, Anne Besson?
Alors la réception est bonne, elle est pas, c'est pas à ce moment-là que se produit la véritable explosion. Le Hobbit avait été très bien reçu. Là, Le Seigneur des Anneaux n'est pas du tout la suite attendue, mais ça se vend très correctement. C'est encore 10 ans plus tard aux États-Unis que ça va changer d'échelle réellement à l'occasion de l'édition en poche en 1965 du Seigneur des Anneaux, alors qui a été aidé par une espèce de petit scandale autour d'une édition pirate. Donc voilà, il y a de la communication un peu autour de cette question-là. Et puis c'est la grande époque de la contre-culture californienne, de la lutte contre la guerre du Vietnam, des premiers hippies, etc. Et là, vraiment, Tolkien devient la lecture obligée de cette génération, un auteur culte. Et justement, avec ces effets d'appropriation très directe où on commence à écrire l'elfique, à s'habiller comme des hobbits, à vouloir reproduire des éléments de culture matérielle, etc.
Oui, je ne sais pas si c'était dans ce contexte historique, mais d'aucuns parlaient de pancartes avec Gandalf président. Enfin, oui, l'idée vraiment celui-là. D'une importation de tout l'imaginaire de Tolkien dans le monde comme il va. Alors, on a dit que Tolkien avait inventé des langues, qu'il les avait beaucoup étudiées, qu'il était philologue, qu'il avait enseigné à Oxford et puis qu'il était auteur de cette langue elfique. On va rentrer dans le sac en passant par une autre langue, c'est le féroïen. Voilà, c'est plus proche de l'islandais, alors que la langue construite par Tolkien et parlée par les elfes était davantage inspirée par le finnois, le latin et le grec. Ça s'appelle Trollabundin et l'artiste c'est Eivor Palsdottir.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, sept aux seigneurs nains dans leur salle de pierre, neuf aux hommes mortels voués à trépasser, un pour le seigneur sombre au trône de ténèbres, au pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. C'est le vers de l'anneau, un poème court de tradition elfique imaginé par J.R.R. Tolkien, par lequel s'ouvre Le Seigneur des Anneaux aux éditions Bourgois, ici dans une traduction de Daniel Lauzon. Un book club Seigneur des Anneaux donc. Il y a pile 50 ans, Tolkien mourait, tandis que le lectorat français découvrait sa grande œuvre enfin traduite. Les éditions Bourgois en publient ces jours-ci une édition anniversaire qui permet d'apprécier la vision que l'auteur avait de ce monde qu'on appelle la Terre du Milieu, à la fin du Troisième Âge, à la fois par les mots mais aussi par les dessins. Elle est présentée comme une édition ultime, l'équivalent d'un Director's Cut. Vous me direz si c'est vrai, si on peut être d'accord avec les éditions Bourgois. Apparemment, elle viendrait vraiment coller aux volontés de l'auteur en intégrant les dessins, les cartes, mais aussi un index que Tolkien voulait voir figurer en fin d'ouvrage et n'avait pas pu terminer avant sa mort. Le Seigneur des Anneaux a toujours été envisagé par son auteur comme un très grand et unique livre, mais on dit que sa longueur et la pénurie de papier après-guerre a obligé les éditeurs à le présenter sous forme de trilogie. Le voilà en entier. Joanne Sfar et Anne Besson, vous êtes avec nous pour évoquer cette œuvre. Nos auditeurs de la communauté du Book Club l'ont lu, eux aussi. Et Frédéric voulait partager un souvenir de sa découverte du Seigneur des Anneaux.
Grâce à un dessin animé, en fait, c'est une très vieille adaptation qu'on a vue avec mon petit frère. Et comme ça s'arrêtait à la bataille des orques et quand Sam et Frodon s'enfonçaient dans le Mordor, j'ai voulu connaître la suite. Et donc c'est comme ça que j'en suis venue à lire les livres. J'avais 11 ans ou 12 ans. C'est la première fois que je lisais quelque chose comme ça. C'était tellement riche, tous ces mondes qui s'entrechoquaient, les elfes, les langues différentes, les cartes aussi. C'était tellement différent de ce que je pouvais lire ou de ce que j'avais pu lire jusqu'à présent. J'avais essayé de lire d'autres livres de fantasy, mais chaque fois, ça m'a paru un petit peu terne et moins riche, en fait, moins enthousiasmant que Le Seigneur des Anneaux, qui reste vraiment mon livre culte et que je relirai.
Un témoignage d'enfance et puis de lectrice adulte qui se souvient, Frédéric, de sa découverte du Seigneur des Anneaux. Je vous adresse la même question. Joanne Sfar, vous découvrez quand ce texte-là de Tolkien ?
Au début du collège. Mais je voudrais revenir sur un malentendu, sur la réception américaine du Seigneur des Anneaux. Aux États-Unis, la littérature de fantasy et d'horreur, c'est-à-dire Howard, c'est-à-dire Fritz Leiber, c'est-à-dire Lovecraft, c'est de la littérature pour adultes, qui vient du pulp. Tolkien, il vient de l'enfance. Il a écrit d'abord les Lettres au Père Noël, après il a écrit Le Hobbit, et après il s'est lancé...
D'ailleurs, pour ses propres enfants, au départ.
Pour ses propres enfants. La façon dont il l'illustre relève aussi d'une tradition qui fait penser au Vent dans les Saules, ou pourquoi pas à Winnie l'ourson, des choses. Et moi, j'ai eu la chance de le découvrir au collège. J'ai lu d'abord Le Hobbit, et ensuite je dépendais du CDI du collège, et il y avait le fils du bâtonnier de Nice qui avait loué les autres, et qui mettait du temps à les lire. Donc je le coursais dans la cour du collège pour récupérer les volumes. Et ça fait partie des rares ouvrages que j'ai lus plusieurs fois. Je crois avoir lu 3 ou 4 fois Le Seigneur des Anneaux, avec toujours le même constat. J'adore quand c'est petit, j'adore le début, j'adore quand on est dans la comté. Et dès que ça devient des grandes batailles cosmiques, ça commence à m'ennuyer prodigieusement. Et là, les Américains me manquent un peu. Quand on dit on a...
Qu'est-ce que ça veut dire, les Américains me manquent un peu?
Parce que les Américains savent s'amuser.
Ah.
Des Fritz Leiber, des Robert Irwin Howard, des gens comme ça, écrivaient dans le pulp, écrivaient dans des récits courts, et écrivaient dans une espèce de jouissance que Tolkien, selon moi, perd à mesure qu'il se prend au sérieux. C'est-à-dire, tant qu'on est chez les Hobbits, c'est extraordinaire. Tant qu'on est dans le début du Seigneur des Anneaux, c'est extraordinaire. Quand on arrive dans la géopolitique elfique et qu'il y a des milliers de personnages qui se battent les uns contre les autres, on me perd un peu.
Mais qu'est-ce qui vous manque, du coup? C'est le texte qui n'a pas la même saveur? C'est le rapport au décor? La manière de mener l'action?
Il y avait une super interview de George Lucas. Il disait, je montre très peu de blessures au sabre laser parce que les gens savent ce que c'est que de se coincer le doigt dans une porte, mais ils savent pas ce que c'est qu'un laser. Tant qu'on a 4 ou 5 hobbits qui ont peur dans la forêt parce qu'un cavalier les poursuit, j'arrive à connecter. Quand il y a 500 combattants, je m'identifie moins. Alors c'est peut-être moi, mais...
C'est le zoom, quoi, qui vous plaît au départ.
Absolument, absolument. Et ça, les Américains le font mieux que lui.
Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi vous accrochez?
Parce que c'est un texte quasi religieux. Parce qu'on a l'impression de découvrir une vision du monde qui est extraordinaire, une vision assez simple, parce qu'il y a le bien, il y a le mal, on sait très simplement qui est gentil, qui est méchant. Je validerai sans doute pas ça aujourd'hui, mais quand j'avais 11-12 ans, j'étais vraiment ravi.
Ça faisait du bien, ouais.
Et les héros sont tout petits, ils sont tout fragiles, on n'est pas chez Conan le barbare qui, quand il attrape une épée, casse la figure. Donc c'est très touchant, c'est l'époque où on lisait aussi beaucoup Barjavel, c'est l'époque où on lisait Marion Zimmer Bradley, ce genre de texte qui voulait oui reprendre la mythologie médiévale et en faire quelque chose de lisible par des jeunes. Et ça a été la porte ouverte vers des lectures plus sérieuses médiévales. On lit ensuite Mallory ou on lit Chrétien de Troyes. Parce
Vous l'avez fait ?
Ah bah oui.
Ah bah et oui, quand comme même. Ça, mis sur le chemin par Tolkien ?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce qu'on va être en quête de récits aussi sérieux que celui-là. Et on cherche dans les auteurs de fantasy de la même époque. Parfois, on est déçu. Parfois, il y a des auteurs extraordinaires. Quand on lit Jack Vance, c'est extraordinaire, mais c'est très différent. Il y a quelque chose de vraiment unique chez Tolkien.
À quoi ça tient d'après vous, avant qu'on parle peut-être de justement l'apport des dessins et puis tout le rapport à la cartographie et au monde, mais si on tient à la langue, tout à l'heure je vais lire un extrait du prologue et puis un extrait du texte, qu'est-ce qui vous attrape, qu'est-ce que vous trouvez unique, Johann Svarr ?
Il y croit vraiment. Peut faire 30 pages sur l'herbe à pipe, de la même manière que Victor Hugo pouvait faire 30 pages sur la généalogie des loups en ouverture de L'homme qui rit. Et cette manière qu'on a eue, finalement, de détester Victor Hugo et de détester Alexandre Dumas, c'est pour ça qu'on n'a pas eu un Tolkien récemment. Tolkien, il n'a pas perdu le sérieux. Je crois que la maladie française, c'est la peur de passer pour un imbécile. Tolkien n'a jamais eu peur de passer pour un imbécile quand il écrivait. Il y avait aucune distance par rapport à son texte. Et ça, un jeune lectorat va plonger dedans avec délectation.
Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec ce texte-là, Anne Besson ?
Alors avec le texte, pas vraiment. J'ai, comme votre auditrice, vu le dessin animé de Ralph Bakshi. Alors c'est 1979, donc j'avais 4 ans. J'étais manifestement trop petite, donc j'avais été terrifiée. Donc ça, voilà, ça m'avait un petit peu tenue à l'écart. Et puis, je grandis à une époque où la fantasy, c'est vraiment un truc de geek, c'est vraiment très très niche, hein. Donc voilà, ça concerne un petit nombre de gens qui sont plutôt des garçons et voilà, qui sont plutôt pas forcément très très sexy et qui jouent aux jeux de rôle dans leur cave. Alors moi, ça m'attire beaucoup, mais voilà, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident à l'époque. C'est devenu aujourd'hui très très mainstream, très partagé, mais c'était à l'époque quelque chose. Une espèce d'Everest pour initier, hein. C'est vrai que c'était une lecture d'adolescent, mais pas n'importe quel adolescent.
Vous l'avez pas attrapé au CDI, quoi. Vous n'avez pas comme ça couru après celui qui avait emprunté les tomes du Seigneur des Anneaux au CDI avant vous.
Non, alors ça, je pense qu'ils étaient facilement trouvables à la bibliothèque. J'ai pas de souvenir direct de.
Comment vous y venez alors au texte?
Justement, voilà, dans ces années d'adolescence où je commence à m'intéresser à ce côté un peu société secrète des gens qui aiment ce genre de choses, ce genre d'imaginaire-là, qui n'est pas du tout commun, qui a pour côté très séduisant, qui n'est pas très partagé. Qu'il est réservé à un petit groupe, une petite élite qui est très largement incomprise. Enfin, une élite, voilà, de mon point de vue, au
d'initié,
contraire.
En tout
voilà,
cas. Vous aviez ce sentiment-là aussi, Johann Svarr ?
Je sais pas, oui. Enfin, on était toujours 3 ou 4 dans un collège à s'intéresser à ça.
Mais donc à s'en parler, à se dire les noms des peuples, des lieux,
oui, parce
des aventures.
Que ça a été contemporain du déferlement des jeux de rôle qu'on avait en version anglaise parce que ça venait de sortir. Donc oui, ça a intéressé 10 personnes par collège. Et il n'y avait pas encore Internet pour créer des liens entre tous ces gens-là. Donc on avait vraiment l'impression de découvrir un truc.
Quand on parle du Seigneur des Anneaux, on n'a pas jusqu'à maintenant, on s'est pas lancé dans le résumé de cette grande intrigue. Qui a envie d'essayer ? Johann Svarr a ouvert.
Allez, d'accord.
Allez.
Non, c'est très bien parce que j'ai dû faire le discours pour mes 52 ans il y a quelques jours.
Joyeux anniversaire, Johann Svarr.
Voilà. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire d'un type qui va avoir 100 ans et qui est très préoccupé par l'organisation de son anniversaire.
Fait, ouais.
Et il a peur qu'on lui vole les petites cuillères, il a peur des cousins qu'il n'aime pas qui vont venir, il a peur de tout ça. Et la petite blague qu'il fait, parce qu'il a tellement peur de mourir, c'est qu'au moment de son discours d'anniversaire, il met un anneau magique et il disparaît. Ça, c'est le début. Et la fin, comme ça je vous spoil, comme toutes les créatures imaginaires, comme tous les êtres qui, dans les légendes irlandaises, vont vers Tiernanog, il s'en va vers le Havre, où vont les créatures imaginaires. Donc, finalement, c'est l'histoire d'un personnage de la campagne qui prépare sa disparition.
Oui, ça a beaucoup à voir avec la disparition. Et lire un extrait de ce moment où il parle des hobbits Tolkien. Mais juste quand même, c'est très sympa. Mais vous omettez tout ce qui se passe au milieu. Comment est-ce qu'on peut raconter ce qui se passe ? En gros, c'est dans une Anne Besson.
Je prends le relais. Donc.
Oui, allez. Non, c'était très bon.
J'ai fait de mon mieux pour le raconter de la manière la moins intéressante possible.
Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Il y avait une pureté
centrale.
Il y avait une grande pureté. Et en tout cas, on voit ce qui vous a intéressé. C'est beau. Anne Besson, allez-y.
Donc, entre-temps, effectivement, les hobbits de la campagne, hein, de cette région reculée de la Terre du Milieu qui est le comté, vont devoir partir en quête parce qu'ils sont les dépositaires de l'anneau unique, hein, celui dont vous avez rappelé les pouvoirs en lisant le poème, tout à l'heure. Et cet anneau, il doit être détruit là où il a été forgé dans les montagnes du destin. Donc en plein milieu du Mordor, qui est la zone où le mal règne, une espèce de terre gaste terriblement difficile à atteindre et à traverser. Et donc, ça va mettre à l'épreuve le courage, la loyauté, l'esprit de sacrifice de ces petits personnages qui, entre-temps, auront rencontré tous les grands de leur monde, en passant par les différentes régions de la Terre du Milieu.
Qu'est-ce qu'on entend par les grands, Anne Besson ?
Bah, il y a des humains, mais aussi de très grandes créatures en forme d'arbres qui s'appellent des Ents, et puis des dirigeants, ceux du Rohan, ceux du Gondor. Donc voilà, vraiment, on va passer dans les différentes régions et dans les différentes cours royales de ces lieux successifs. Ils vont aussi croiser les grands elfes, c'est-à-dire les derniers survivants de ce peuple. Voilà, très ancien, très majestueux, très noble, très artiste, dont Tolkien a par ailleurs raconté l'histoire millénaire dans le Silmarillion et les volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc, par ailleurs, on ne connaît pas encore ces textes quand paraît le Seigneur des Anneaux, mais on peut tout de suite savoir que derrière les elfes, il y a une profondeur temporelle énorme, parce que le texte nous permet de le ressentir, le moment où les hobbits, enfin toute la compagnie de l'anneau est en Lothlorien, qui est la forêt elfique, la forêt magique où vivent les elfes. Ils ont le sentiment de pénétrer dans un autre monde, dans un autre temps, comme si une fenêtre s'était ouverte sur un autre plan d'existence où le temps ne passe pas.
Et avec l'idée qu'en lisant Le Seigneur des Anneaux, on a aussi accès à toute une épaisseur de temps. Tout à l'heure, vous disiez l'œuvre dans laquelle s'était lancé Tolkien, à savoir toute la construction d'un passé mythologique, y compris l'arborescence de leurs croyances, ça fait que ça n'est pas que l'aventure qu'on essaie de décrire là, mais aussi la manière dont c'est en eux. Est-ce que je dis ça correctement, Anne Besson ? C'est-à-dire qu'en suivant leur aventure, on a conscience qu'ils rencontrent un monde épais.
Oui, tout à fait. Cet effet d'épaisseur, avec cet effet effectivement de premier degré d'immersion dont parlait Johannes Fahr tout à l'heure, c'est les deux
dimensions,
points
quoi,
très forts de ce roman pour lequel il est assez incomparable.
Je trouve assez intéressant que Johannes Fahr, vous nous parliez d'un personnage qui prépare la fête qui l'angoisse tant et sa propre disparition. Et Anne Besson, vous nous parlez beaucoup de île au pluriel. Alors qu'est-ce qu'il faut, il faut dire quoi ? Le Seigneur des Anneaux, c'est une figure au milieu de île ou c'est plutôt quelque chose de très collectif ?
Il y a une chose très nouvelle tout de même. Vous vous rappelez la fin des Sept Samouraïs, la dernière phrase, c'est
non,
à la fin.
Non, mais vous, oui.
Oui, à la fin, c'est toujours les paysans qui gagnent. À mon sens, c'est le cas unique d'une redite de récit médiéval, parce que dans un récit médiéval, quand on voit un paysan, d'habitude, c'est pour se moquer de lui. C'est le seul cas, à ma connaissance, d'un récit pseudo-médiéval dans lequel le héros épique est un paysan. Parce que l'idée de Tolkien, c'est que le monde est déréglé, pour mille raisons, et l'espèce de sagesse paysanne qui met chez ses hobbits des personnages dont on a même oublié l'existence, qui sont tellement pas intéressants qu'on va s'identifier à eux dès le début. Tintin, c'est le moins intéressant des aventures de Tintin, c'est pour ça qu'on s'identifie à lui, c'est une page blanche, on va survivre. Et il met de la sagesse et de l'épique dans ce personnage qui est tout sauf un héros épique. Et ça m'a toujours bouleversé.
Et ce personnage, c'est ?
Alors, moi, je dirais ça surtout du personnage de Sam, qui est le compagnon de Frodo, qui est le dernier à garder l'espoir, à garder l'émerveillement. Mais voilà, Frodo, lui, est plutôt un petit bourgeois du monde, de son monde du comté.
Et Sam porte une autre sagesse, on va dire, à laquelle rend hommage Tolkien.
Oui, bah oui, c'est là. Alors, c'est un jardinier. Voilà, tout simplement. C'est celui qui va rentrer chez lui, c'est celui qui va rester dans le comté, alors que tous les autres effectivement sont devenus des créatures éthérées qui partent à la fin vers les havres gris. Sam reste et Sam plante des arbres.
Oui, et d'ailleurs on va l'entendre tout de suite dans sa description des hobbits. Tolkien parle immédiatement de la terre. Les hobbits sont un peuple longtemps passé inaperçu, mais néanmoins très ancien, plus nombreux autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui, car ils aiment la paix, la tranquillité et une bonne terre au long labour. Rien ne leur convenait mieux qu'une campagne bien ordonnée et bien cultivée. Ils ne comprennent pas et n'ont jamais compris ni aimé les machines plus compliquées qu'un soufflet de forge, un moulin à eau ou un métier à tisser rudimentaire, bien qu'ils aient su manier les outils avec habileté. Même aux temps anciens, ils étaient généralement très réservés avec les grandes gens, comme ils nous appellent, et de nos jours, Ils nous évitent avec effroi et deviennent difficiles à trouver. Ils ont l'ouïe fine et l'œil perçant. Et s'ils ont tendance à l'embonpoint et ne pressent jamais sans nécessité, ils montrent néanmoins beaucoup d'agilité et d'adresse dans leurs mouvements. Ils ont toujours été doués dans l'art de disparaître rapidement et sans bruit. Quand de gros pataux qu'ils ne souhaitent pas rencontrer s'aventurent de leur côté, et cet art, ils l'ont perfectionné à tel point qu'il peut paraître magique aux yeux des hommes. Mais les hobbits n'ont en fait jamais étudié la magie d'aucune sorte, et leur nature insaisissable n'est due en réalité qu'à une habileté professionnelle que l'hérédité et l'expérience, de même qu'une étroite union avec la Terre, ont rendu inimitable pour d'autres races, plus gauches et plus lourdes. Les hobbits du comté dont il est question dans ces récits, au jour de leur prospérité et de leur paisible existence, c'étaient de joyeuses gens. Ils s'habillaient de couleurs vives, avec une préférence marquée pour le jaune et le vert, mais ils portaient rarement des chaussures. Leurs pieds, ayant la plante dure comme du cuir, et étant recouverts d'un poil épais et frisé, très semblable à leur chevelure, laquelle était généralement brune. Ainsi, le seul métier qu'ils ne pratiquaient pas couramment était la cordonnerie. Mais ils avaient de longs doigts habiles et pouvaient fabriquer bien d'autres choses utiles et belles. Leur visage était d'ordinaire plus enjoué que joli, large, avec des yeux brillants, des joues rouges et une bouche qui se prêtait volontiers au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient souvent et avec entrain, ne dédaignant pas une bonne plaisanterie et 6 repas par jour quand ils le pouvaient. Ils étaient accueillants, adoraient les fêtes ainsi que les cadeaux qu'ils offraient sans compter et acceptaient sans se faire prier. C'est un extrait du prologue dans la dernière traduction d'Daniel Lauzon, Le Seigneur des Anneaux. Comment est-ce qu'on pourrait dire, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire, cette présentation du peuple des Hobbits, Johann Sfar?
Moi, je les adore, évidemment. On est dans le cas assez rare d'un genre littéraire qui est phagocyté par une seule œuvre. Il y a plein d'auteurs de fantasy, mais il y en a un qui a créé le canon, c'est Tolkien. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on écrit de la fantasy ou quand on joue à un jeu de rôle...
On pense aux hobbits ?
Ah, mais il faut forcément qu'il y ait des hobbits, des nains, des orques, sans se rendre compte que certains de ces personnages ont été vraiment inventés par Tolkien, mais ils sont passés pratiquement dans le domaine public.
Comme si c'était pas des inventions, finalement.
Oui.
Comme si c'était ça, en fait.
Oui, il y a quelque chose d'un peu Saint-Sulpicien là-dedans, c'est-à-dire que si j'écris de la fantasy et si je mets pas des orques, les gens vont être déçus. Et d'ailleurs, chacun s'en est emparé, chacun les a réinventés. Il y a eu un scandale passionnant dans le monde de Donjons et Dragons il y a un an ou deux. Il y a eu de grands écrits pour défendre la spécificité ethnique des orques, pour surtout pas les vexer et pour pas offenser les orques. Donc on a décidé que dans Donjons et Dragons, les orques qui étaient moins intelligents que les autres, c'était fini, et que orques, c'était pas une ethnie, c'était dorénavant une culture. C'est très amusant de voir comment ces personnages qui étaient pleins de stéréotypes racistes à une époque sont aujourd'hui... Une autre histoire marrante. Les orques, quand Tolkien les écrit, c'est clairement raciste.
C'est qui, dites-nous alors.
Il a grandi en Afrique du Sud, il a été enlevé par un Zoulou quand il avait 3 ans, ça l'a traumatisé. Les pages où il décrit les hobbits portés par des orques quand ils courent, ça n'a rien à envier à la pire littérature raciste qu'on puisse imaginer. Quand Games Workshop et les Anglais décident de mettre des orques dans leur jeu de rôle à l'époque du jeu Warhammer, ils en font des skinheads supporters de foot, donc ça devient des peaux vertes, et ils leur donnent l'argot des supporters de foot skinhead anglais. Donc c'est amusant de voir comment l'orque, qui est un repoussoir, s'est venu parer de toutes les dépréciations possibles et a perdu son sens originel.
Et c'est quoi, des méchantes créatures que rencontrent les hobbits sur cette grande aventure qu'on décrivait tout à l'heure?
Ce sont des elfes pervertis par la modernité. Ils ont la même souche que les elfes, mais un méchant magicien les a triturés et en a fait de méchantes créatures.
Que vous inspire la lecture de ce prologue là qui présente le peuple des hobbits, Anne Besson?
Alors c'est déjà comme un développement du prologue du premier roman qui s'appelle justement
Le Hobbit,
comme si tout sortait vraiment de cette phrase initiale. Dans un trou vivait un hobbit qui lui serait venu un jour en corrigeant une copie blanche. Voilà, il a jeté cette phrase là et ensuite il a inventé la créature qui allait avec. J'aime beaucoup l'idée que tout le grand monde du Seigneur des Anneaux sort de cette petite région qu'est le comté, et c'est très habile de sa part. C'est presque là comme du roman naturaliste où on suit d'abord les petites gens de la campagne.
Et puis
c'est eux qui vont nous amener avec leur regard naïf
dans le grand
et qui
monde.
Nous est relativement familier. Hein, d'emblée, on peut s'identifier à ces hobbits qui sont bons vivants, proches de la terre, etc. Et c'est à travers leur regard naïf, leur regard toujours émerveillé, qu'on va découvrir le reste. Ils vont être les relais de notre immersion dans ce monde toujours plus grand qu'on découvre avec eux.
Alors, je suis pas sûre de vouloir m'aventurer, mais je vais quand même y aller. Tout à l'heure, vous avez dit, Johan Svar, Tolkien, c'est évident, c'est un écrivain de droite. Est-ce que le rapport à la terre qui est décrit ici, la façon dont il fait quand même de ce peuple un peuple attaché, je sais pas, au territoire, etc., est-ce que c'est ça qui fait que vous en parlez comme un écrivain de droite?
Oui, c'est
je sais pas pourquoi j'ai posé cette question.
Parce qu'elle est passionnante, parce que c'est un écrivain de droite au sens du gentleman farmer anglais qui a pas hésité à se battre quand il fallait se battre contre les nazis. Je parle de l'imaginaire anglais tel qu'on le voit. Donc évidemment, il est paternaliste, c'est un ancien colonialiste, il est pétri de culture. Ça c'est irréfutable. Mais c'est un type bien. Dès qu'il est question du racisme, il prend position contre. C'est un type généreux, c'est un type qui essaye de sortir de son univers culturel. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous laisse donner le sens qu'on veut à sa légende. Il lègue une légende et il nous laisse en faire quelque chose. Ce qui pose question aujourd'hui pour les auteurs, comme c'est mon cas, qui tentent d'écrire de l'imaginaire, c'est comment faire pour prendre cet imaginaire qui est clairement un imaginaire d'Européens blancs et comment en faire pour en faire des légendes pour une population beaucoup plus métissée d'aujourd'hui et comment réinventer l'imaginaire chevaleresque, réinventer...
Mais est-ce que ça s'y prête, Tolkien ? Est-ce que n'importe quelle personne, quel que soit son âge, son orientation sexuelle, sa couleur de peau, sa position géographique aujourd'hui dans le monde, n'a pas la place de se retrouver dans un monde aussi grand que celui inventé par Tolkien ?
Ça s'y prête d'autant mieux que ça se fait et que les gens s'en emparent. Ce qui est formidable, ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est que toutes les minorités s'emparent de la fantaisie et en changent le sens selon ce qui les intéresse.
Ouais.
Oui, pour moi, il a laissé un monde ouvert, il a laissé un monde sans vouloir donner un sens définitif, et on sait d'où ça vient. Ça vient d'un gamin qui a grandi en Afrique du Sud, qui était ensuite en Angleterre, et qui était pétri de traditions anglaises avec ce que ça a de bon et de pas bon. Mais c'est ouvert, et c'est un grand texte, et on peut en faire ce qu'on veut.
Alors Tolkien a quand même à peine vécu en Afrique du Sud, mais il est certes, il est conservateur et surtout il hérite effectivement de ce qui est de toute façon notre héritage mythique européen, où par exemple la lumière et la clarté s'opposent à l'obscurité et au noir. Donc cette espèce de base mythique qui est millénaire. Hein,
ce que disait tout à l'heure Johan Svar, c'est-à-dire finalement un des plaisirs de lecture pour l'adolescent qu'il était, c'était aussi l'idée du bien et du mal, bien enraciné à bien deux endroits différents.
Oui, alors le manichéisme est vraiment nuancé chez Tolkien, puisque en fait les méchants jouent un rôle important. Gollum, qui est le personnage le plus ambivalent qui soit, est celui qui ultimement permet la victoire du bien. Donc là encore, c'est quelque chose de très religieux, c'est-à-dire tout le monde peut se racheter. Et le salut peut venir, la grâce peut venir de partout.
On va entendre la voix de J.R.R. Tolkien. Il est au micro de la BBC, on est en 1973 justement.
Les personnes ne comprennent pas toujours la différence entre l'allégorie et l'application. Bien sûr, vous pouvez prendre une pièce de Shakespeare et y voir des allégories si vous voulez. Mais la plupart des éléments ne relèvent pas de l'allégorie, sauf peut-être dans la pièce La Tempête. Beaucoup de personnes ont cru que je faisais une allégorie de la bombe nucléaire avec l'anneau magique dans mon histoire. Mais ce n'est pas le cas. Si vous voulez vraiment intéresser les lecteurs avec une histoire longue, tenir leur attention sur un temps considérable, il faut raconter des histoires humaines et elles sont toujours à propos d'une seule chose, ces histoires. La mort, inévitablement.
Longtemps, la terreur des morts avait plané sur cette colline et sur les prés désolés alentour. Car au sommet se dressait une pierre noire et ronde, tel un globe immense, aussi grande qu'un homme, bien qu'à moitié enterré. Elle ne semblait pas de ce monde, comme si elle était tombée du ciel, et certains le croyaient. Mais ceux qui entretenaient le savoir de l'occidental soutenaient que cette pierre, avait été sauvé de la ruine de Numénor et placé là par Isildur quand il voulait demeurer près d'elle. Aucun des gens de la vallée n'osait s'en approcher, ni ne voulait être ici, car on disait que c'était un lieu de rendez-vous des hommes de l'ombre, qui s'y rassemblaient au jour de peur, se massant autour de la pierre et chuchotant entre eux. La compagnie trouva cette pierre dans la nuit noire et s'y arrêta. Elrohir tendit alors un cord d'argent à Aragorn, qui le fit retentir. Et ceux qui se tenaient là eurent l'impression que d'autres corps lui répondaient, comme un lointain écho venu de profondes cavernes. Nul autre son ne vint à leurs oreilles, mais ils sentaient qu'une grande armée s'assemblait autour de la colline qu'ils occupaient, et un vent froid descendit des montagnes tel un souffle fantomatique. Mais Aragorn mit pied à terre et debout près de la pierre, il cria d'une voix puissante « Parjure, pourquoi êtes-vous ici ?» Et une voix monta dans la nuit et lui répondit lointaine « Pour accomplir notre serment et trouver la paix. » Un extrait du Seigneur des Anneaux dans une traduction de Daniel Lauzon. Tout à l'heure, vous disiez, Johan Sfar, si j'ai aimé ce texte, c'est parce que c'était un texte religieux. Et on entendait là une archive de 1969-8 de J.R. Tolkien à la radio BBC qui disait, finalement, il n'y a qu'une chose qui agite les histoires humaines. Et si je veux écrire une grande œuvre, il faut que je raconte des histoires humaines. C'est la mort. Est-ce que vous diriez que finalement c'est la confirmation de ce que vous disiez ou ce que vous pensiez adolescent ?
Oui, absolument. Il prend des créatures qui viennent des récits enfantins et des légendes anciennes et il permet qu'on y croit. Dans une période, en tout cas quand j'étais jeune, où la religion n'était pas la préoccupation principale, Tolkien amène une mythologie et il y a une histoire hilarante quand on reparle des Américains, c'est quand les jeunes Américains s'emparent de son œuvre. Lui, il les déteste. Lui, il supporte pas les hippies, il supporte pas les beatniks, il comprend pas tout ça. Et il voit arriver des gamins fans de lui, et il y aurait presque un film à faire là-dessus sur Tolkien qui comprend pas ce qu'on lui veut, et qui est beaucoup plus sérieux que ça. Et d'une certaine façon, il y a la gravité des légendes, il y a le plaisir du récit enfantin, et au milieu de ça, il y a les fans de Tolkien qui lui ressemblent absolument pas. Et ça, je trouve ça marrant.
Anne Besson, sur la dimension existentielle ou plutôt sacrée ou rapport à la mort comme on l'entend là, que faut-il entendre ? Est-ce que c'est trop facile de le rapprocher à ce que vous disiez dès le départ dans la notice biographique, à savoir que la mort l'a frappé dès l'enfance et la perte des parents pourrait être quand même quelque chose qui plane derrière le texte du Seigneur des Anneaux ?
La perte des parents, puis ensuite la perte des amis, hein, la perte
pendant
de
la première
génération, ouais. oui, puisqu'ils sont quand même peu à être revenus, donc ça, ce traumatisme-là, il est majeur, hein, et il est vraiment, on le lit dans un certain nombre de passages du Seigneur des Anneaux, le passage sur le marais des morts, hein, où on a là tous ces corps qui affleurent des anciennes batailles, hein, et qui reviennent chercher les vivants, dans le passage que vous avez lu, où Aragorn peut
approche la pierre noire, ouais.
Oui, et peut invoquer l'armée des morts en tant que héritier d'Isildur et des anciens rois de Numénor, les nains aussi, tout le passage dans la Moria où en fait cette immense mine des nains est devenue un tombeau. Ils se sont tous fait massacrer et ils se recueillent, hein, sur la tombe et sur les os des derniers nains. Donc effectivement, c'est une œuvre qui de ce
oui,
point de vue n'est pas légère,
pas d'allégorie, mais en même temps quand même, on va dire que tout ce qu'il a traversé et tout ce qui a agité la première moitié du XXe siècle de laquelle il a fait partie peut quand même, on va dire, être sourd.
Et une œuvre existentielle, une œuvre métaphysique.
Il y a quand même un éléphant dans la pièce, c'est l'absence d'éléments féminins dans tout le texte, ou en tout cas ils sont sacralisés, ils sont lointains, et l'hypersexualisation des éléments inquiétants. C'est-à-dire que l'œil de Sauron, j'ai pas besoin de réveiller les obstétriciens pour savoir ce que c'est, les grottes dans lesquelles on passe son temps à se perdre et on s'y retrouve tout seul. Enfin, il a une terreur, est-ce que c'est l'absence de la mère, est-ce que c'est
une terreur du sexuel, oui, voilà, c'est
mais ça. Mais c'est un texte pour petits garçons terrifiés.
Il y a dans ce livre-là, dans l'édition, toute une série de dessins. On a accès aux illustrations, aux cartographies. Évidemment, je me tourne vers vous qui êtes en train de dessiner depuis le début de cette heure, Johan Sfar. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces dessins-là intégrés au texte ?
C'est bouleversant. C'est bouleversant parce que c'est encore l'époque où les écrivains savaient dessiner. Et ça ramène vers la gravité de l'illustration d'enfance. Et malheureusement, beaucoup de gens qui se sont emparés de Tolkien en ont fait de l'hyper-réalisme très grave, presque à la Gustave Doré ou quelque chose comme ça. Mais il me semble que la polysémie des dessins de Tolkien, qui est à la fois presque dans le dessin médiéval et dans la lettre qu'on ferait à un enfant, comme quand il faisait les lettres au Père Noël, ça me semble beaucoup plus riche. Moi, j'ai toujours été du côté de l'enfance quand il est question de dessiner.
Je disais tout à l'heure, en ouvrant au hasard l'une des illustrations et en tombant sur une représentation d'une forêt au teint jaune et vert, quasi naïf, mais très précis, que je ne m'attendais pas du tout, moi, qui ne connaissais pas du tout l'univers des dessins de Tolkien, à ce genre de dessin. Anne Besson, qu'est-ce que ça raconte peut-être le côté graphique de son œuvre ?
Alors ça a été une découverte récente, hein, puisque très longtemps ces œuvres-là ne sont pas sorties des cartons, et puis que deux expositions récentes à la Bodleian puis à la BNF ont permis de les découvrir, et aujourd'hui elles ont rencontré un écho énorme. Des tapisseries d'Aubusson en sont tirées, qui justement en mettent en valeur les couleurs qu'on avait oubliées, puisque beaucoup de celles qui étaient connues étaient en noir et blanc, tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit effectivement un lien aussi plus fondamental de la fantaisie et de l'imaginaire à l'image, qui était présent chez énormément des premiers auteurs de fantaisie, qui étaient très souvent des dessinateurs, des illustrateurs.
Et des auteurs.
Oui, tout à fait.
Un très grand merci à vous deux d'être venus parler du Seigneur des Anneaux dans cette traduction de Daniel Lauzon, immense publication onéreuse mais belle, parue aux éditions Bourgois. On pourra voir votre travail à vous, Johan Sfar, notamment au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. C'est une grande exposition qui retrace toute votre œuvre. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on peut dire qu'il y a les carnets Youngman qui paraissent, mais aussi un magnifique catalogue de cette exposition et encore le volume 12 du Chat du Rabbin. Merci beaucoup à
tous. Merci.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est 15h50 dans le Book Club et le lundi, nous recevons la visite d'Emmanuel Laurentin. Emmanuel, dans Lecture d'actualité, vous avez le rôle difficile, mais intéressant, de mettre en lumière des faits d'actualité avec des imaginaires littéraires. 15 jours depuis les attaques du Hamas en Israël et les massacres qui ont suivi. 15 jours aussi de bombardements sur Gaza, dans l'attente annoncée d'une offensive terrestre de l'armée israélienne. Vous vouliez nous parler de quelques lectures qui racontent ce que le journaliste et homme de radio Pierre Bourdon avait qualifié, au lendemain de la libération de la France, dans un livre de souvenirs, de carnet des jours d'attente.
Oui, qu'est-ce que c'est qu'attendre, effectivement, dans une guerre ou attendre une guerre, Marie, un beau titre pour une attente de 4 ans, en l'occurrence entre juin 40 et le débarquement de juin 44, mais un livre de souvenirs qui raconte, vu de Londres, où il avait rejoint le général de Gaulle très tôt, comment cette attente est active, faite d'actions militaires et de bulletins radiophoniques destinés à déstabiliser l'adversaire et à réconforter aussi, sur le territoire national, les Françaises et les Français occupés dans l'attente de leur libération.
Mais alors, les romans que vous avez choisis, eux, ils parlent plutôt de l'attente des assauts de l'ennemi, dans une position peut-être plus existentielle, plus méditative, car entièrement dépendante de la volonté des adversaires.
Oui, j'ai voulu reprendre un grand livre que j'ai beaucoup aimé, évidemment, qui s'appelle Le balcon en forêt, de Julien Gracq. L'aspirant Grange rejoint, au début de la Seconde Guerre mondiale, une maison forte des Ardennes, une sorte de bunker moderne destiné à empêcher, évidemment, l'offensive allemande. Depuis ce balcon en forêt, la drôle de guerre est longue avant la percée de la Wehrmacht en mai 40, et Grange se promène généralement dans cette forêt, dans ces allées boisées. L'air était tiède et mou, chargé de senteurs de plantes. Il faisait bon marché sur cette route sonore et crissante, enfouie dans l'ombre des branches, avec au-dessus de sa tête cette traînée de ciel plus clair, vaguement vivante, qui semblait parfois s'éveiller du reflet des lueurs lointaines. Grange marchait dans une sensation de bien-être physique, sur laquelle venaient virer des pensées confuses, qui n'étaient pas toutes amènes. La nuit le protégeait, lui rendait cette respiration heureuse et cette aisance des bêtes nocturnes pour qui se rouvrent des chemins libres. Mais la nuit rapprochait la guerre de lui. Sur le monde tapis épaissement, dans la peur des premiers âges, on eût dit qu'une épée de feu eût inscrit de grands signaux purs et lisibles. Le ciel éveillé au-dessus des bois regardait la France obscure, l'Allemagne obscure, et entre les deux l'étrange scintillement calme de la Belgique, dont les lumières venaient mourir au bord de l'horizon. La nuit ne dormait pas. Et puis un jour, cette attente évidemment est rompue par, je cite, un puissant ronflement de moteur, la guerre imaginée jusqu'alors de très loin, de loin, est désormais ici.
Mais dans les textes, il arrive, et dans le monde aussi, que la guerre n'arrive pas, Emmanuel.
Oui, c'est le cas évidemment d'une de mes lectures de jeunesse que vous avez peut-être lues tous ensemble. C'est Le désert des Tartares de Dino Buzzati, évidemment, traduit par Michel Arnaud. Le lieutenant Giovanni Drogo est envoyé dans une forteresse avancée du royaume face aux ennemis du Nord. Plein de rêves de gloire et d'héroïsme, il est averti dès son arrivée tout de même au fort Bastiani qu'il y risque plutôt l'ennui. Au bout de 4 ans d'attente, son commandant lui conseille de quitter le fort et de retourner en ville, mener une vie plus accordée à son âge, car de là il ne pourra jamais venir de guerre, dit le commandant. Drogo revoit alors les 4 années écoulées depuis son arrivée, les jours s'étaient enfuis les uns après les autres, les soldats, qui pouvaient être des ennemis, étaient apparus un matin aux confins de la plaine étrangère, puis ils s'étaient retirés après avoir effectué d'inoffensives opérations de cadastre. La paix régnait sur le monde, les sentinelles ne donnaient pas l'alarme, rien ne laissait présager que l'existence pût changer. Mais les conseils du commandement général ne portent évidemment pas leurs fruits, et Drogo ne quitte pas le fort. Bien des années passent, Drogo est devenu alors commandant de ce fort, il est tombé gravement malade, et c'est à ce moment-là que les ennemis du Nord décident d'attaquer le fort. Le commandement lui donne l'ordre de repartir vers l'arrière. Drogo, qui a tant attendu, observe une dernière fois la plaine du Nord qu'il a tant regardée. Les ennemis s'amassaient sous le dernier repli devant le fort, par la route de la plaine. Des troupes et des voitures descendaient toujours. Tous les regards sont tournés vers le Nord à ce moment-là. Comment, en ces jours lointains où les étrangers étaient venus délimiter la ligne frontière, comme alors les esprits sont en suspens, traversés alternativement par la peur et par la joie. En tout cas, personne n'a le temps de penser à Drogo, lequel est en train de s'habiller et se prépare à partir. On le sait, Marie, quand on a interrogé souvent, comme ça m'est arrivé, des anciens combattants de toutes les guerres, cette attente, cette suspension du temps avant l'attaque, reste en mémoire tout autant que l'action guerrière.
Merci beaucoup Emmanuel Laurentin. Lecture d'actualité, c'est à réécouter sur franceculture.fr. Est-ce que vous vous rappelez les 2 titres de livres que vous avez sortis de votre bibliothèque ?
Le balcon en forêt de Julien Gracq et puis également Le désert des Tartares de Dino Buzzati, traduit par Michel Arnaud. Néanmoins, on ne peut pas relire, si on ne l'a pas acheté comme moi chez un bouquiniste, Les carnets des jours d'attente de Pierre Bourdan, car c'est un livre qui n'a jamais été réédité.
Dommage. À 15h55 sur France Culture, c'est l'heure de jouer. Comme chaque jour, on se quitte en musique grâce au jeu des pages musicales. Je vous rappelle le principe, j'espère que vous allez jouer Anne Besson et Johannes Farr à l'avenir. Vous êtes en train de lire, comme probablement ça vous arrive chez vous, vous tombez dans un paragraphe sur l'évocation d'un air musical. Faites une petite photo, vous le relevez par écrit, vous l'envoyez via l'Instagram du Book Club de France Culture ou bien à l'adresse lebookclub@radiofrance.com. Nous, on a toute une collection d'extraits littéraires qui évoquent de la musique et tous les jours, on en choisit un. L'extrait d'aujourd'hui a été proposé par Isabelle. Elle l'a trouvé dans un livre qui s'appelle « Les nageurs de la nuit » de Thomas Jedrowski, paru en 2023 aux éditions La Croisée. Et l'extrait fait ça. Elle a levé son verre et pivoté sur ses talons. Puis la musique s'est arrêtée. Le disque était fini. On entendait le craquement sourd des haut-parleurs entre les bavardages de la foule. Soudain à nu. Nous nous sommes regardés, intrigués, dans l'expectative. Un nouveau disque a été placé sur la platine par un garçon dégingandé en pantalon pâte def vert. Aussitôt, une série de pulsations rapides et légères ont préparé l'auditoire, attiré notre attention, extatique, simple et obsédante. Et avant que nous en ayons même conscience, la voix de sirène de Blondie remplissait la pièce, faisait circuler un frisson parmi nous. Nous ne connaissions pas les paroles, pas une seule, mais nous comprenions tout à Heart of Glass. Toute son euphorie, sa décadence, le plaisir de se laisser aller.
Confusing them.
À la réalisation aujourd'hui, c'était Lise Combe, au son Ruben Karmazin. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, à Alexandre Alaï-Begovic, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Anouk Delfino, Léa Weiss-Grus et Mathilde Wagman. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas rejoindre la communauté via l'Instagram du Book Club. L'adresse pour nous envoyer tous vos choix de lecture, vos mots d'amour et compagnie, lebookclub@radiofrance.com. Très bel après-midi sur Culture.